Bonsoir, bienvenue dans Les Amis d'Orwell.
C'était la patrouille de police snooping into people's windows, qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens.
Seul comptait
only the thought police matter.
La police de la pensée.
La technique dans la montée de l'autoritarisme, c'est le thème des dernières rencontres technologos. Ça se tient actuellement jusqu'à demain, samedi 21, au CICP, donc à Paris rue Voltaire. Technologos est un groupe technocritique qui sévit depuis un peu plus de 10 ans, et cette année au programme donc les ressorts autoritaires de la religion du progrès technique, avec pas mal de conseils de lecture pour se replonger dans le sujet. Alors on a ramené de ces rencontres 3 interventions. Celle d'abord de l'historien des sciences François Jarige, auteur de nombreux livres ou d'articles sur les ludites, les briseurs de machines. Il a écrit aussi sur la résistance au chemin de fer. Et son dernier bouquin sorti à la découverte, c'est « Le moteur animal et la fabrique de la modernité », paru en 2023. Il y avait aussi PMO, pièces et main-d'œuvre, venu de Grenoble pour nous parler de technostructure ou même de technocrature, avec d'éminents exemples venus de la cuvette grenobloise pour nous parler de technologie de contrainte qui dépasse, on verra de loin, la surveillance et le contrôle. Et enfin, l'intervention de Mathieu Amiège. Alors lui aussi est fervent technocritique, surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. En fait, c'est d'informatique dont il est question. Alors, Mathieu est membre du groupe Écran Total, et son dernier livre paru aux éditions La Lenteur et pile poil dans le sujet, c'est L'Industrie du complotisme, sorti il n'y a pas longtemps, en 2024. Si vous êtes dans le coin demain matin, justement samedi, donc il y a encore une matinée de discussion où on parlera de l'industrie nucléaire notamment, donc c'est jusqu'à midi au CICP 21 rue Voltaire à Paris. Vous retrouverez toutes les infos et les références sur ces rencontres sur le site de Technologos, technologos.fr. Tous les ouvrages cités seront mentionnés en biblio. Je vais essayer de faire la liste en biblio sur notre site internet, que vous retrouvez à partir de la semaine prochaine. Et on commence donc par écouter François Jarige. Il parle des constatations de l'historien américain Lewis Mumford, avec son ouvrage de référence sur la question intitulé « Technique autoritaire et technique démocratique ». Donc Lewis Mumford, paru en 1963. Voilà, on écoute François Jarige.
Bon, alors moi, on m'a demandé d'intervenir sur l'origine, la généalogie de cet autorisme technicien. Donc ça sera une sorte de petite note de bas de page au macro-récit proposé par Mumford, qui va du néolithique à nos jours. Donc moi, je voulais revenir sur un moment de bascule, évidemment, dans l'émergence de cet autoritarisme technicien, qui correspond au passage de ce que Mumford appelle le passage de la phase éotechnique à la phase paléotechnique, et qui correspond aussi à l'invention d'une nouvelle relation, d'une nouvelle conception de la technique comme technologie, c'est-à-dire comme ensemble de procédés reposant sur la science à des fins de contrôle et de production industrielle, si on reprend la formulation et la définition de Mumford. Alors évidemment, Mumford, c'est extrêmement intéressant. Et en même temps, son macro-schéma évolutionniste, il soulève toute une série de questions, notamment quand il pose le point de départ du problème dans la révolution néolithique. On pourrait discuter, parce que Je pense que les sociétés paysannes du XVIIIe siècle n'étaient pas du tout encore prises dans cet imaginaire de la technologie et de la phase paléotechnique. Donc il y a une sorte de tension chez Mumford entre cette analyse évolutionniste en trois phases, sur laquelle il insiste sur le basculement paléotechnique, et en même temps, il renvoie aux sociétés anciennes, alors c'est l'Égypte, aux pyramides, aux premières formes, aux premières étapes bureaucratiques. Donc ça pose la question, que je ne vais pas régler, hein, mais de la généalogie, de l'origine du problème qu'on essaye de circonscrire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voulais aussi rebondir sur la notion de technologie, parce que c'est intéressant, effectivement. On peut donner cette définition de la technologie. C'est le système technique né avec l'industrialisation, modelé par l'idéologie du progrès, et arrimé sur un nouvel imaginaire et sur un ensemble aussi de nouvelles forces sociales portées par les ingénieurs et portées par ce qu'on appelle la science moderne. Mais la technologie, à l'origine, ça avait un autre sens. Avant le retour de ce mot par le biais de la langue anglaise, au début du 19e siècle, à la fin du 18e siècle, la technologie, c'était un mot qui existait en français. On dit toujours que la technologie est un anglicisme, mais en fait, le mot existait dans la langue française au début du 19e siècle, et la technologie, c'était le logos de la techné, c'était l'ensemble des... donc la science des savoirs opératoires, la systématisation des savoirs artisanaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet d'une technologie, c'est-à-dire d'une sorte de science de toutes les opérations artisanales et de tous les savoirs opératoires qui caractérisaient la phase zéotechnique, cette idée de la technologie, ça s'inscrit déjà dans un rapport de pouvoir. Puisqu'en construisant un discours, en captant les savoirs artisanaux dans une science unifiée, il s'agit d'un processus déjà d'emblée de dépossession de la diversité de ces savoirs techniques enracinés dans des contextes sociaux, dans des mondes du travail très singuliers, qui sont captés, pris en charge par une nouvelle science totalisante qui vise à systématiser ces savoirs artisanaux. Et en les systématisant, on peut les automatiser, on peut les prendre en charge via une série de spécialistes qui émergent à cette époque-là, les ingénieurs, les contremaîtres, toutes ces professions techniques qui ont comme objectif et comme enjeu de contrôler le monde de la technique et sa rationalisation. Donc je voudrais revenir un peu sur les conditions de mise en place de cette nouvelle conception de la technologie, de ce nouveau régime paléotechnique, tel que l'appelle Mumford, en proposant une généalogie donc de longue durée de cette question de l'autoritarisme technicien, c'est-à-dire de l'idée que la technique devient un outil de contrôle social, devient un outil de pouvoir, que ça invente un nouveau régime de la technologie qui vise fondamentalement au contrôle social et à l'instauration d'un nouveau pouvoir. Et ça, effectivement, il y a un basculement majeur qui est en réalité très récent, hein, qui correspond au 19e siècle, à ce qu'on appelle parfois la révolution industrielle, qui donne naissance vraiment à un tout autre rapport au monde, à un tout autre rapport à la technique, à un tout autre rapport aussi à la hiérarchie, à la question de la subordination, et qui invente, pour le dire vite, ce qu'on appelle le capitalisme industriel, qui est cette forme sociale qui précisément place l'autorité et le contrôle du monde, de la nature, des individus, des acteurs humains, au cœur de son projet politique. Et ce capitalisme industriel a une énorme efficacité, d'une certaine manière, parce qu'il permet d'accroître la production et d'ouvrir un monde de la consommation massive, ce qui explique en partie son acceptation ou son adhésion par cette dépendance consumériste qui va peu à peu se construire et qui rencontre aussi un nombre infini de limites, de problèmes auxquels on se heurte aujourd'hui plus qu'à aucun autre moment, puisqu'on atteint le stade ultime finalement de ce projet et que cet imaginaire du progrès qui faisait consensus pendant longtemps ou presque ne le fait plus du tout, et chacun constate bien, voit bien qu'il y a des limites physiques, des limites naturelles et des limites psychiques et sociales à cette technologie paléotechnique qu'évoquait Mumford. Que fondamentalement, ce nouveau régime technologique, industriel ou paléotechnique, en fonction de la façon dont on veut l'appeler, elle fondamentalement s'inscrit dans une dynamique de contrôle social et de pouvoir. Et ça, c'est un point qui est effectivement très important, puisque dans le récit dominant du progrès, la technique devait à la fois élargir les libertés, devait officiellement, parce que c'est ça, c'est-à-dire que cet imaginaire du progrès s'est fondé sur un mythe selon lequel la technique devait nous émanciper des enracinements, d'une nature acariâtre et mauvaise qui freinait notre capacité d'agir, devait faire advenir une société potentielle égalitaire, une société plus libre, une société plus démocratique. Le fait que cette technologie industrielle corresponde aussi à l'avènement de ce qu'on a, de ce qui va devenir dans nos conceptions restrictives la démocratie libérale contemporaine, c'est pas anodin. C'est-à-dire que penser technologie et forme autoritaire, autoritarisme, implique de bien prendre conscience d'emblée que historiquement, cette technologie, c'est justifié, c'est vendu et c'est installé comme une condition de possibilité de la liberté des modernes. D'où la difficulté de s'en sortir en réalité, parce que notre conception de la liberté a été restreinte, refermée sur une conception restrictive de la liberté rendue possible par les capacités d'action nouvelles qu'offrait ce monde des techniques. Et la technique industrielle qui s'installe au XIXe siècle, en fait, est un outil majeur de résorption de cette conflictualité sociale, de ces formes de revendications politiques et démocratiques. Et donc, en ce sens, elle s'inscrit d'emblée dans un projet politique autoritaire de contrôle. Qu'est-ce que c'est, ces formes de revendications ? C'est pas anodin que l'émergence de cette technologie industrielle soit contemporaine des grandes périodes de révolution politique où s'expriment et s'énoncent des revendications à la liberté, à l'autonomie, à une démocratie pleine et entière. 1789, 1830, 1848 sont des moments de révolution, de surgissement de groupes sociaux, de revendications populaires extrêmement importantes. Et la technologie industrielle naît à ce moment-là comme un outil de contrôle social pour résorber cet surgissement des catégories populaires dans l'espace public qui effraie les États en construction, qui effraie un certain nombre d'élites sociales qui se structurent autour du capital. Et la question, je pense qu'il ne faut pas négliger la peur gigantesque qu'a représenté ce surgissement de paroles populaires, d'actions et de revendications démocratiques et sociales réelles dans la première moitié du 19e siècle, exactement à l'époque de ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et d'ailleurs, la révolution industrielle, vous savez, cette expression, en fait, c'est une expression qui naît vers 1830, au lendemain de la révolution de 1830 en France, qui a renversé la monarchie de la Restauration, qui voulait revenir aux formes politiques de l'absolutisme de l'Ancien Régime. Et la révolution, l'expression révolution industrielle est une formule qui a été inventée par un économiste français pour dire, pour constater l'échec de la révolution politique. En disant, en fait, regardez, on fait des révolutions politiques en France, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est faire une révolution industrielle, comme l'a fait la Grande-Bretagne, qui est le modèle des économistes, des libéraux de l'époque. Et donc, plutôt que de faire une révolution politique qui n'aboutira pas, en fait, ce qu'il faut, c'est changer la matérialité de l'organisation sociale en faisant une révolution sur le terrain de l'industrie, en transformant les systèmes techniques industriels. C'est grâce, finalement, à ce changement des techniques, plus qu'à l'engagement politique pour renverser les pouvoirs autoritaires, que se fera une émancipation et une démocratisation réelle. Donc d'emblée, hein, dans l'expression même de révolution industrielle, il y a ce projet de finalement rompre le cycle des révolutions qui effraie parce qu'il fait intervenir sur la scène de l'histoire des acteurs qu'on voudrait laisser dans les marges et qui pose la révolution industrielle et technique comme finalement la condition du bonheur collectif. Donc ça sert à rien de vous agiter, de lutter, de revendiquer des droits. Contentez-vous d'accueillir avec bienveillance et joie le chemin de fer, les nouvelles machines puissantes des usines, et le monde ouvrira un vaste champ de bonheur collectif. Par exemple, je pourrais prendre quelques exemples intéressants. Un industriel qui s'appelle Eugène Griolet, qui était un important industriel parisien, un important filateur à Paris dans les années 1830, qui contrôlait à peu près de grands ateliers avec plusieurs centaines d'ouvriers à Paris et des ateliers avec plusieurs centaines d'ouvriers en province. Et il expliquait dans une lettre qu'il avait décidé d'acheter ses premières grandes machines industrielles sur le modèle anglais, notamment des grandes machines à filets actionnées par une énergie extérieure, la définition du régime paléotechnique selon Mumford, des machines à vapeur ou des roues hydrauliques. Il avait décidé d'investir dans ces machines pour concentrer sa main-d'œuvre autrefois dispersée dans des ateliers concentrés où pourrait s'exercer un contrôle plus important sur ses travailleurs, à la suite d'une coalition. Il explique, c'est par suite d'une coalition d'ouvriers fileurs que j'ai été forcé d'acheter cette dernière machine. Et donc là, et ça c'est un témoignage assez fréquent à l'époque, une justification des investissements à une époque où tout le monde se demande vraiment à quoi ça sert, ces grosses machines qui coûtent très cher, qui rendent dépendants d'un système charbonnier, de l'importation de charbon, de techniciens, c'est le bordel quoi, de faire installer une usine et une machine à vapeur, c'est extrêmement complexe, lourd. Mais en fait, et l'argument qui revient souvent pour justifier ce type d'investissement ou de choix technique nouveau, on passe de l'outil à la machine, hein, c'est le contrôle social. C'est la nécessité de résorber des formes d'autonomie au travail qui font que les travailleurs n'en font qu'à leur tête. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, l'insubordination ouvrière est permanente. Les ouvriers qui travaillent dans un cadre artisanal ou dans le cadre d'ateliers domestiques à la campagne travaillent quand ils veulent. D'ailleurs, le travail industriel et la production industrielle n'est souvent qu'un complément du travail agricole. Dans un contexte de diminution des prix agricoles, beaucoup de paysans se mettent à filer, à tisser, à fabriquer différents biens pour le marché, pour pouvoir subsister dans un contexte où la pression sur les revenus agricoles tend à diminuer. Du coup, on se met à produire plus, souvent avec des outils très simples qui sont fabriqués par le serrurier ou le forgeron local. Mais le problème, c'est que ce mode de production, il est extrêmement insatisfaisant pour les capitalistes parce qu'il implique une maîtrise de la production par les travailleurs qui peuvent régler le rythme de leur travail, qui travaillent quand ils veulent et quand ils veulent pas, qui peuvent même chaparder une partie en fait des matériaux parce que les industriels distribuaient la matière première à domicile, ils transformaient puis ils rendaient. Et pendant le processus, les ouvriers, en fait, récupéraient une partie du coton, de la laine, des matériaux, puis le revendaient au marché noir pour faire un complément, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de standardisation de la production, et ça devient une sorte d'obsession des industriels. Le capitalisme industriel implique une organisation standardisée, normalisée, un contrôle du temps, une régularité croissante. Et donc, les machines doivent permettre ça, en fait. Les machines doivent permettre ce contrôle, permettre à la fois de limiter les conflits en atténuant cette conflictualité et les grèves, et permettre aussi un meilleur contrôle social sur le cycle de production dans un contexte où il s'agit d'assurer la régularité de la production et éviter tout ce qui relève de l'irrégularité. Et ce qui relève de l'irrégularité, c'est en premier lieu la présence des êtres vivants. Les ouvriers et les animaux qui sont difficiles à domestiquer dans une logique capitaliste, et la machine va servir à accompagner ce processus de domestication. Donc ça, c'est vraiment c'est un exemple, mais en fait, on trouve plein d'exemples de ce type-là. Un autre exemple que j'aime bien, 40 ans après, Denis Poulot, petit patron de l'industrie mécanique parisienne, qui est confronté à l'insubordination permanente de sa main-d'œuvre, et qui écrit un livre célèbre qui s'appelle « Le sublime », qui est une sorte de réflexion sur le travailleur artisanal, autonome, qui refuse de rentrer dans la rationalisation du salariat capitaliste moderne. Et il dit, il cherche les moyens de rabattre le caquet à ces ouvriers sublimes qui ne veulent rien entendre à la nouvelle rationalité capitaliste. Et il le dit lui aussi explicitement. Hein. Il s'agit, comme il le dit, par exemple, il écrit que le marteau pilon a embouti l'autonomie des forgeurs dans les ateliers traditionnels. Il n'y a rien de moralisateur comme une machine, écrit Denis Poulot dans Le Sublime. Oui, il n'y a rien de moralisateur comme une machine, moralisateur au sens d'une morale capitaliste et industrielle, c'est-à-dire l'incorporation de nouvelles formes de discipline, notamment dans le monde du travail. On trouve exactement la même chose dans le monde agricole. Les premières machines qui sont introduites dans le monde agricole sont liées à un projet de discipline de la main-d'œuvre. Les premières machines qui ne sont pas des outils dans le monde agricole, c'est les machines à battre. Les grosses machines qui permettent de battre les céréales après la récolte pour séparer le grain qui est tenu par la tige. Et ça, c'était un gros problème, le battage. Parce qu'en général, c'était réalisé par des ouvriers, des migrants ou des travailleurs pauvres des campagnes qui trouvaient pendant l'hiver, lorsqu'il y avait peu d'activité dans les campagnes, des sources de revenus en battant les céréales au moyen du fléau, au moyen d'animaux, etc. Et les premières machines de type industriel utilisées dans l'agriculture, c'est au milieu du 19e siècle pour réaliser le battage. des machines d'abord à force animale, puis des machines locomobiles. Alors, l'arrivée de l'énergie fossile dans le monde rural et dans les campagnes, c'est par le biais de ces machines à battre fonctionnant au charbon, parce que personne ne voulait de charbon dans les campagnes au 19e siècle, on se demandait bien à quoi ça pouvait servir, à part pour faire chauffer quelques fours. Les entreprises, les premières formes d'entreprises capitalistes dans les campagnes visent à accompagner la mécanisation du battage. Et pourquoi est-ce qu'on mécanise le battage en premier lieu ? Parce que le battage, c'est l'opération la plus difficile à contrôler. Notamment, on n'arrête pas d'accuser les ouvriers batteurs de grains de chaparder une partie de la récolte pendant le battage. On les accuse de battre de mauvaise manière, on les accuse, le processus est trop long, trop irrégulier. Donc on veut rationaliser ce travail. Dans le manuel d'agriculture pratique, publié en 1841, le premier manuel d'agronomie qui explique les bonnes pratiques contre la routine paysanne, il écrit « Il est vraiment déplorable de voir combien les batteurs au fléau abusent de la facilité qu'ils ont de se soustraire à une active surveillance ». C'est moins pour diminuer leur salaire que nous voudrions voir les machines à battre se propager et leur faire concurrence que pour les obliger à être raisonnables et à faire leur travail en conscience. C'est-à-dire être raisonnable et faire son travail en conscience, c'est-à-dire rentrer là aussi dans cette logique de subordination et de respect des nouvelles normes temporelles, des nouvelles normes de travail. Donc c'est... Je pense que ça, c'est un point fondamental. C'est-à-dire qu'entre les années 1700, la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, on est dans une conjoncture de révolution politique, d'insubordination croissante du monde du travail, qui profite de la suppression des corporations, de l'affirmation d'un certain nombre de principes de liberté et d'un nouvel horizon égalitaire proclamé par les révolutions pour revendiquer des droits, pour revendiquer de nouvelles formes de liberté. Or, évidemment, la liberté des élites capitalistes de l'époque n'est pas celle de ces milieux populaires. Et donc le machinisme industriel paléotechnique s'invente comme un outil de contrôle social de cette subordination ouvrière. Et là, c'est là qu'on est dans la généalogie longue de le taylorisme. C'est-à-dire le taylorisme est la systématisation et l'aboutissement à la fin du 19e siècle, mais c'est finalement, Taylor, il n'a pas inventé tant de choses que ça. C'est celui qui a systématisé, publié la théorie ultime de ce processus de rationalisation poussé à son terme, mais qui est lui-même l'héritage d'un siècle de projets, de contrôle, de l'insubordination des milieux populaires. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais notamment que ce processus, évidemment, ne s'est pas fait de façon inéluctable, linéaire, comme une sorte de locomotive qu'on ne peut pas arrêter. En fait, il y a eu plein de critiques permanentes. Je citerai juste un exemple que j'aime bien d'un auteur peu connu, mais assez fascinant, qui s'appelait Gauny, G-A-U-N-Y, qui était un menuisier dans la France des années 1840, qui est un peu connu parce que le philosophe Jacques Rancière avait exhumé certains de ses textes dans les années 70 et publié un petit livre qui s'appelait « Le philosophe plébéien », qui était... ensemble de publications de textes de Gauny, qui étaient restés à l'état manuscrit, puisqu'il a très peu publié de son vivant, mais il a laissé dans des archives qui ont été conservées, qu'on trouve aux archives municipales de Saint-Denis, des tas de manuscrits tout à fait fascinants qui proposent une analyse critique du monde industriel en train de s'installer et de se mettre en place. Et Gauny, qui était un socialiste, un temps saint-simonien, avant de se séparer des saint-simoniens pour développer une position plus originale et singulière, et détaché justement de cette fascination que les saint-simoniens vont avoir pour ce nouveau monde des machines industrielles, Gauny se livre à une critique implacable des contradictions et des impasses politiques, sociales et environnementales de ce nouveau système machinique industriel. Par exemple, il s'intéresse beaucoup au train. Il est exactement contemporain de l'installation du train entre 1841 et 1851. Toutes les lois sont votées. Et il fait du train le symbole, et du système ferroviaire, le symbole de cette technologie autoritaire. Et il la pense comme une technologie autoritaire. Il y a tout un texte sur le chemin de fer qui est présenté comme un ensemble despotique, comme un outil despotique qui doit... qui doit aboutir à une sorte de mise sous contrôle de la nature et des hommes. Et il parle de la nature et des hommes, hein, notamment en dénonçant les destructions environnementales, les pollutions, les accaparements de la terre aux dépens des agriculteurs par ces nouvelles puissances capitalistes que sont les compagnies ferroviaires, qui sont les premières grandes entreprises capitalistes. Hein. C'est avec les compagnies ferroviaires que va s'inventer la bourse et le système financier au milieu du 19e siècle. Et c'est la première aussi, bon, après les canaux monarchiques sans doute, mais c'est un des premiers systèmes techniques de grande échelle qui repose sur l'alliance entre science, État et industrie pour permettre le fonctionnement de ce macro-système technique qui impose une nouvelle discipline sociale, hein, puisque le rapport au temps, le rapport à l'espace est remodelé évidemment par ce vaste système mécanique qui impose ses propres logiques. Et c'est aussi là que se met en place le gigantisme technologique de la technologie autoritaire qui implique par son mode de fonctionnement même un régime fort et un régime concentré et un régime autoritaire. Pour faire fonctionner et coordonner le fonctionnement simultané de toutes ces locomotives sur un vaste réseau d'acier, et il faut inventer le télégraphe, inventer des forces de l'ordre, inventer un nouveau régime spatio-temporel fondé sur le contrôle et l'autorité. Et donc Goni fait de ce système ferroviaire un vaste symbole d'un nouveau despotisme qui est en train de se mettre en place avec le monde industriel. Bon, je commence à quelle heure déjà ? 10 ? Ah bah j'ai fini alors. Bon, non mais alors, moi j'ai été beaucoup trop loin là-dessus, mais je voulais surtout vous parler de ça. Voilà, ce que je veux dire c'est que toutes ces dynamiques qui sont en germe au début du moment paléotechnique, en fait, ce qui va se passer à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ce qu'on va observer, c'est que ce premier âge qui fonctionnait pas très bien encore, en fait, qui tâtonnait, qui était contesté de tous les côtés, il existait plein de mondes sociaux qui n'étaient pas encore inscrits, hein, dans ces rapports autoritaires, dans ces rapports hiérarchiques, et qui ne se reconnaissaient pas, hein, dans ce nouveau régime autoritaire fondé et articulé à ce système technique. Depuis 50 ans, on est exactement dans la continuité, dans la poursuite de ce régime des technologies autoritaires qui se sont cristallisées au début du 19e siècle. Et l'informatique, la numérisation s'inscrit très clairement là-dedans. Et l'ambivalence profonde de la numérisation repose là-dessus. C'est-à-dire rejoue en fait le mythe de l'émancipation, de l'autonomie, le mythe de la numérique et l'informatique, enfin, l'informatique puis le numérique, en fait, devait, comme au début du 19e siècle, inventer un système technique qui serait démocratique, qui serait horizontal, qui serait, alors, en plus, immatériel, c'est-à-dire qui romprait avec toutes les logiques du système technique autoritaire. Et d'ailleurs, les promoteurs même de l'informatique et du numérique le disent, hein, dans les années 60-70, il s'agit d'inventer d'un monde technique qui irait à l'encontre du lourd système technique centralisé et autoritaire de l'âge carbonifère. Et ça, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que le monde informatique reconnaît que nous sommes dans un régime technique et technologique, industriel, autoritaire, avec des grandes usines tayloriennes qui fument, qui puent et qui exploitent le prolétaire. Et c'est explicite, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est une sorte d'évidence, il n'y a pas besoin d'organiser des assises pour en discuter. Et d'ailleurs, ils utilisent cet argument pour dire « mais on a trouvé la solution à ce système technique centralisé et autoritaire, on va inventer un régime technique immatériel, en réseau, où c'est plus les matières qui circulent, mais c'est des flux d'informations qui vont permettre de redynamiser les collectifs autonomes en créant une société autogérée. » Et donc c'est tout le mythe et l'utopie informatique des années 70-80 qui se déploie sur ces bases-là. Et bien, depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que c'était une grosse fumisterie et que le monde numérique et informatique renouvelle, réinvente le système technique hiérarchisé et autoritaire en se présentant comme un monde de la technologie démocratique. Et c'est ce paradoxe ou ce mensonge qu'il s'agit de dévoiler aujourd'hui et d'explorer. Voilà. Merci beaucoup.
Vous êtes toujours dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Nous étions aux rencontres Technologos, c'était au CICP à Paris. Le thème du jour, c'est de la technique dans la montée de l'autoritarisme. Alors nous avons écouté l'historien François Jarige et on enchaîne avec une membre du collectif Pièces et Main-d'œuvre qui sévissent eux et elle depuis presque 20 ans dans la critique anti-industrielle. Les technologies de nuisance Dans la région, c'est devenu une habitude. C'était par exemple le premier, Grenoble, le premier centre de recherche nucléaire délocalisé en province lors de la création du CEA après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a donné naissance notamment à une carrière de technologies mortifères comme les nanotechnologies, biologie de synthèse, etc. PMO publie ses réflexions sur pièces-et-main-d'œuvre.com. Voilà, tiens, ça s'invente pas. Il sera question du règne de l'ingénieur, homme clé dans la technostructure. Il sera question aussi de la société de contraintes.
Bon, alors en fait, juste pour dire que nous, on n'utilise pas le terme d'autoritarisme, finalement. C'est pas un terme qu'on utilise, mais on utilise des termes et on parle de choses qui reviennent à ça. Mais nous, on parle de contraintes. J'essaierai d'expliquer un tout petit peu ce que c'est. Yannick disait la technocrature, et puis au tout début on parlait de techno-totalitarisme aussi. Mais en fait on est tous en train de parler de la même chose, me semble-t-il, c'est-à-dire la façon dont nos modes de vie, finalement, entendus au sens large, modes de production, rapports humains et rapports au monde, sont pris en main et pilotés au fond par la technologie. Alors la technologie, c'est pas le truc sans sujet, évidemment, c'est ce que nous essayons d'expliquer nous, c'est qu'il y a un pilote dans la machine. Ce pilote, c'est la technocratie. Ce que je trouvais intéressant, c'était de voir comment, comme vous savez, nous vivons dans la crise permanente, avec un grand C, et puis bon, elle a des épisodes comme ça qui ont des allures différentes, mais ce qui est frappant, c'est que chaque moment de crise, chaque étape de cette grande crise, à chaque fois, renforce la technocratie et lui permet en même temps de renforcer sa propre puissance, qui est, c'est-à-dire, la propre contrainte qu'elle exerce sur ceux qui ne maîtrisent pas les moyens, qui sont les machines, les technologies. Et très rapidement, si on revient sur un siècle en arrière, c'est très frappant, juste avec trois exemples. Le premier, c'est après, c'est dans l'entre-deux-guerres, après la première guerre, donc la crise de 1929, donc gros moment de crise dans les économies, de façon internationale. Et pour la France, je m'intéresse à la France là, ça génère très rapidement la fondation d'un groupe qui s'appelle X-Crise, qui est fondé par des polytechniciens, comme son nom l'indique, et qui décide de prendre les choses en main. On ne peut pas continuer à laisser comme ça la politique aller à volo et laisser les affects nous gouverner. Il est temps de rationaliser un peu ce monde et cette société. Et donc X-Crise s'inscrit tout à fait dans l'esprit saint-simonien, c'est-à-dire tout le pouvoir aux ingénieurs et la transformation de la société en une forme de méga-machine, comme aurait dit quelqu'un d'autre, mais qu'on va piloter de façon rationnelle. Et Jean Coutreau, qui est l'un des animateurs d'X-Crise, le dit très bien, il dit « C'est aux ingénieurs qu'il incombe de construire des sociétés meilleures, car ce sont eux qui détiennent les méthodes nécessaires. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société meilleure dans la bouche d'un ingénieur? Méfiez-vous quand on vous parle de société meilleure. C'est pas ce que vous croyez. C'est en fait l'organisation rationnelle totale de la société et de nos vies. Ça veut dire, clairement, oui, il y a l'organisation scientifique du travail, mais on va avoir l'organisation scientifique de la vie en société, en quelque sorte. Et c'est des gens qui vont s'impliquer énormément ensuite, dans les années 30, dans tout mouvement planiste. On fait des plans, il n'y a pas qu'en URSS qu'on fait des plans, mais on fait ça aussi, notamment en France. Et puis, ils vont s'appliquer à mettre nos vies et le monde en chiffres. C'est très intéressant de voir comment, dans la tête d'un ingénieur, le dénombrement est un outil de contrôle. Il a raison, d'un point de vue matériel, factuel, c'est vrai, mais l'idée qui émerge à ce moment-là, qui est très fortement portée, c'est que ça va s'appliquer aussi aux humains et à des choses qui, jusqu'ici, n'étaient pas considérées comme rationalisables. Le vivant, l'humain, le spontané, le créatif, etc. Ça doit aussi rentrer dans les cadres. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont notamment développer beaucoup les statistiques. Parce que les statistiques, dont la racine étymologique est le mot « état », c'est un instrument à la fois de connaissance du monde social, et qui dit connaissance du monde social, un ingénieur, il ne se contente jamais de connaître. S'il connaît, c'est pour pouvoir agir. Ça n'intéresse pas juste de savoir, hein. Il faut agir. Donc ensuite, on va pouvoir employer des méthodes de modélisation pour aboutir à la mise au pas, en quelque sorte, du monde social. Alors, quand on dit ça en 1932, à mon avis, ça doit paraître un peu abscon, un peu vague et tout ça. Quand je vous dis ça à l'ère du big data et de l'intelligence artificielle, vous voyez tout de suite de quoi je veux parler. C'est-à-dire que on est encore là-dedans, c'est-à-dire la collecte de données, c'est pas toujours des chiffres, on a amélioré le système, donc c'est pas que des chiffres, mais au bout du compte, c'est le même projet de rationalisation. Et à ce moment-là, donc, dans les années 30, on parle de l'état ingénieur. Et il va sans dire que ces technocrates de Polytechnique à l'époque, ils traversent les aléas politiques comme dans du beurre, hein, c'est-à-dire Vichy, enfin pour la France, hein, mais
le Front populaire.
Le Front populaire, Vichy, puis ensuite retour. Alors je vais vite là, mais bon, après-guerre, etc. Ils sont toujours là, c'est-à-dire qu'au fond, ils confirment ce que un seul être a dit à l'époque sur le vif, c'était Bernard Charbonneau, c'est-à-dire qu'il y a l'écume des choses qui sont les régimes politiques, alors qui quelquefois sont sévères, hein. Je ne suis pas en train de dire que le Vichy ou le nazisme c'est rien, mais c'est une écume politique, et pendant qu'on combat cette écume-là, ou qu'on la voit en face, il y a la lame de fond, qui est la lame de fond technocratique, qui, elle, perdure quel que soit le régime, et qui avance, et qui, de fait, transforme la réalité et nos vies avec sa propre logique. Et évidemment, cette propre logique, qui est celle de l'organisation totale, nous n'en avons jamais débattu, nous ne l'avons jamais décidé collectivement, et c'est donc en ça qu'on peut aussi rejoindre le terme d'autoritarisme, et évidemment le fait majeur, quoi. Alors, j'ai sauté un peu vite après la Deuxième Guerre, mais parce que c'est une étape importante, puisque effectivement, les technologies ont évolué entre-temps, et aussi que la Deuxième Guerre a renforcé l'idée qu'on pouvait décidément pas laisser les humains décider tout seuls et se prendre en main leur vie sociale et collective parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Et donc, arrive le moment de la cybernétique et de Norbert Wiener qui vient pour dire, bah, attendez, on va remplacer tout ce qui est du domaine de encore une fois, hein, de la décision humaine, par de l'automatisation, du pilotage machinal, puisque l'humain est l'erreur, et ben on va utiliser les moyens des ingénieurs qui, eux, ne faillissent jamais. Il suffit de nourrir la machine avec toutes les données du problème et elle vous sort la solution. Hein, elle vous sort sans tenir compte des paramètres humains. Donc c'est ce qui inspire, bon je passe vite parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais c'est ce qui inspire à Dominique Dubard l'article sur la machine à gouverner dans Le Monde, donc en 1948, qui est vraiment ça, c'est-à-dire ben, au fond, et si on remplaçait, y compris l'organisation des gouvernements, soit des États, soit d'un seul État, d'ailleurs, il parle d'un État peut-être unifié, par une machine à gouverner, ben, ça pourrait être éventuellement une solution. Et ça, c'est un retour vraiment à Saint-Simon. Parce que dans l'idée de Saint-Simon, le réseau technique est censé réguler le social. Or, quand on parle de cybernétique, on parle de réseau. Avant, il y avait les canaux, il y avait les chemins de fer, on était déjà dans le réseau. Mais avec la cybernétique, on est dans une forme de super réseau, hein, qui va connecter tous les sous-réseaux, en somme. Et donc, on peut avoir cette idée que ce réseau-là, va réguler le social, et en plus de manière automatisée. Donc c'est génial parce qu'on s'épargne l'intervention humaine. Et alors ce qui est intéressant, c'est que bon, Wiener, tout ça, tout le monde connaît, mais nous, à Grenoble, dans la foulée de ça, on a, comme vous savez, on est la mère de toutes les technopoles, tout ça a commencé il y a fort longtemps, mais dans l'après-guerre, dans les années 50-60, on voit débarquer à Grenoble un commando qui sont des ingénieurs sous-mariniers. Donc ils sont ingénieurs, mais aussi militaires, ils ont fait la guerre. Ils reviennent à la vie civile avec la ferme intention d'appliquer à la vie civile les méthodes du militaire. Bon, ça, c'est une vieille histoire. Et notamment parce qu'on leur confie la tâche de créer à Grenoble le premier détachement du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique en province. Et ils vont le faire à leur manière d'ingénieur militaire de façon extrêmement efficace, puisque le maître mot des ingénieurs et de la technocratie, c'est l'efficacité, hein, c'est la référence qui va s'appliquer à tout. Ils vont le faire à Grenoble, ils vont créer les laboratoires de R&D qui ont produit toutes les nuisances dont nous souffrons aujourd'hui. Donc, voilà, je vous les passe toutes, hein, mais enfin, bon, les nanotechnologies, les nanoélectroniques, c'est-à-dire la cybernétique, les smartphones, l'IA et compagnie, la biologie de synthèse, les neurotechnologies, ils ont fait tout ça. Tout est parti de cette espèce de commando-là, comme ça. Encore une fois, des ingénieurs extrêmement organisés, à qui on donne les moyens, hein, d'accord, hein, ils sont pas démunis. Et parmi cette équipe de commando, là, il y en a un qui s'appelle Bernard de la Palme et qui aura une carrière nationale, parce qu'ensuite, il va être nommé au plan. Et en 64, il écrit un rapport dont je voudrais vous donner un extrait, parce que quand on parle d'autoritarisme, c'est intéressant. Donc vous voyez, ils sont en 60, les années 60, ils se projettent 20 ans d'avant. Et dans ce rapport, on dit, ben voilà, la technologie avance, les progrès se font à vitesse accélérée, et donc, qu'est-ce que ça provoque ? Ben notamment, ça fait disparaître des gens. Ça éradique des métiers, ça fait disparaître, avec ces métiers, les modes de vie. C'est l'histoire du progrès, hein, c'est l'histoire de la technologie. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on envisage ça ? Ben quand on est un ingénieur sous-marinier, voilà ce qu'on écrit. L'obsolescence n'engendre pas d'elle-même une élimination immédiate et le progrès ne s'accompagne point d'une adaptation spontanée. Il est certain qu'il y a lutte et que souvent elle requiert l'effort. Une mode sans doute chasse l'autre, mais la mécanisation agricole n'a pu faire disparaître spontanément les obstacles au remembrement des terres. C'est d'abord un effort de réflexion pour dresser l'inventaire de ce qui disparaîtra nécessairement, pour mesurer le degré de résistance des divers secteurs frappés de désuétude, pour élaborer une stratégie de l'élimination. Donc, quand on parle d'autoritarisme, on y est. Ça, j'ai envie de dire que c'est le commun, c'est le quotidien de la réflexion des planificateurs, des organisateurs, des ingénieurs technocrates. Alors la dernière crise en date, et là je vais passer vite parce que vous l'avez vécu en direct, s'appelle le Covid, mais ça a été vraiment une accélération de l'accélération. Au point que nous, on a même parlé de mutation. C'est-à-dire que, comme l'a dit Thierry Breton, parfait CV de technocrate, ancien ingénieur de chez Bull, de chez France Télécom, de chez Atos, passé par les ministères, puis commissaire européen. Au début de la pandémie, direct, il dit « Les grandes crises sont très souvent dans l'histoire des accélérateurs de tendance, donc on va y aller. » Et ils y sont allés. Hein, je ne vous fais pas la liste, mais la dématérialisation, la vie de zombies en ligne a fait des progrès considérables. Et au niveau de la contrainte, les QR codes, les applications de traçabilité, tout ça s'est passé impeccablement sans résistance, ce qui a indiqué à la technocratie que c'était possible. Et d'ailleurs, Thalès a tout de suite bondi là-dessus pour dire que c'était une opportunité de changement systémique. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, Thalès ? Eh bien, ils vont pouvoir passer, donc on est en 2020, ils vont pouvoir enfin faire passer, par exemple, leur projet de portefeuille numérique européen électronique, qui était un peu dans les tuyaux depuis un moment, et qui, de fait, à la faveur du Covid, ça y est, c'est passé, hein, on y est là, et l'accélération de ce que nous appelons la contrainte a connu à nouveau une accélération. Qu'est-ce qu'on entend par contrainte ? La contrainte, c'est le fait d'agir d'une manière qui n'était pas celle que nous avions décidée. Hein. C'est-à-dire quand on est sous contrainte, on est en quelque sorte piloté, on est manipulé. C'est différent du contrôle, c'est différent de la surveillance, c'est plus insidieux en quelque sorte. Et notamment quand ça passe par le biais de la technologie, parce que ça s'accompagne d'externalités positives, dirait-on. C'est-à-dire bah, plus de confort et ainsi de suite, je ne fais pas la liste, qui fait que tout le monde se précipite sur le smartphone, maintenant sur l'IA, etc. C'est-à-dire que tout le monde pense avoir un gain de puissance avec ces outils, mais en fait, derrière ce gain de puissance, s'accroît la contrainte, parce que ces outils-là, ce réseau-là, c'est pas rien de dire que c'est un réseau, parce que souvent, on est focalisé sur le fait qu'on va être surveillé, parce que nos données remontent dans le réseau. Mais en fait, les données dans un réseau, elles circulent dans tous les sens. C'est-à-dire que la tour de contrôle, le pilotage centralisé, lui aussi nous envoie des données. Lui aussi nous envoie des injonctions. Et c'est là qu'elle se passe, la contrainte. Par exemple, pour prendre le train, vous ne pouvez plus juste avoir un billet. Il faut aussi avoir un mail, un truc, un machin, parce que la SNCF ne pilote plus seulement des trains, elle pilote les trains et les voyageurs. Et ça, c'est la contrainte, c'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on est obligé de s'adapter, de devenir le rouage de la machinerie générale. Si on n'a pas la connexion, à un moment donné, ça va bloquer. Vous n'allez plus pouvoir vivre votre vie comme vous l'aviez jusqu'à présent. Et d'ailleurs, de fait, c'est ce qui se passe. Ça prend plus ou moins de temps, selon les mauvais caractères, mais peu à peu, les digues cèdent. C'est très difficile de vivre là-dedans. Parce que, comme l'a très bien dit l'ancien patron d'IBM en 2008, quand ils ont lancé leur projet de Smart Planet, l'objectif, c'est... Lui, il disait ça sous forme de question, c'était joli. Il disait, pourquoi ne pas tout connecter? Pourquoi ne pas tout contrôler? Oui, pourquoi, hein? Donc, le bilan de ça, c'est que on passe dans un glissement qui est semi-conscient, je dirais, vers ce techno-totalitarisme qui est l'impossibilité de vivre en dehors de... Hein, c'est ça, finalement, le totalitarisme à ce moment-là, c'est-à-dire l'impossibilité de vivre en dehors de... Et en plus, la contrainte, c'est-à-dire que cette organisation technologique de la société, où prime l'efficacité, doit régir y compris nos vies d'êtres humains, d'êtres vivants. Il n'est pas seulement question de perdre des libertés politiques ou des libertés sociales, mais il est question de perdre en soi-même l'idée même de la liberté, qui n'est pas juste la liberté de faire ce que je veux et ce qui me plaît, c'est pas ça la liberté évidemment, mais l'idée même de sentir que en tant qu'individu, j'ai un potentiel qui m'est propre et que je peux développer ou que je peux expérimenter parce que j'ai la liberté de le faire, elle se réduit comme peau de chagrin sous cette contrainte technologique. C'est là qu'on rejoint cette idée de totalitarisme qui est, pour moi, autoritarisme, ça a une connotation très politique, c'est-à-dire l'État. Bon, mais là, on parle de quelque chose qui, comme vous l'avez compris, dépasse largement le cadre de l'État ou même des multinationales, mais qui est au fond de la société. Et c'est pourquoi j'ai envie de terminer avec Charles Bonneau pour dire que on ne détruit pas la nature sans détruire la liberté. Et c'est ça que nous essayons de dire depuis plus de 20 ans et qu'il est très difficile de faire entendre. Je ne sais pas pourquoi.
There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Thank you.
40 miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to.
Les amis d'Envoil vous proposent des interventions faites aux dernières rencontres Technologos. C'était le 20 et 21, donc demain encore, 21 septembre au CICP, rue Voltaire à Paris. Pour conclure, on vous propose maintenant d'écouter Mathieu Amiech du groupe Écran Total, qui a publié, lui, aux éditions La Lenteur, le livre « L'industrie du complotisme », où il est question, bien entendu, de l'informatisation de nos vies. Alors lui donnera pas mal de conseils de lecture pour aller plus loin dans la réflexion, les mettra sur le site de l'émission. Je vous laisse donc avec Mathieu Amiech, à tout à l'heure.
Voilà, un petit topo sur la contribution du numérique, de l'industrie du numérique, des technologies numériques dans notre quotidien, à la montée de l'autoritarisme. Je ne vais pas simplement parler de la contribution du numérique à l'arrivée de régimes autoritaires, mais je vais aussi m'intéresser à ce qu'il y a d'autoritaire dans certains mouvements et dans certains comportements contemporains, en me référant à la personne, aux travaux de l'école de Francfort sur la personnalité autoritaire. Voilà. Donc d'abord, le rôle du numérique dans le déclin des libertés publiques et dans la montée, du coup, dans la remontée de l'arbitraire au sein de sociétés comme les nôtres. Je ne me réfère pas en disant ça à un âge d'or de la démocratie, au 19e ou au 20e siècle. Je ne considère pas, par exemple, que mes grands-parents vivaient en démocratie quand ils sont nés sous la 3e République, quand ils se sont mariés sous la 4e, ou quand ils ont élevé des enfants sous De Gaulle. Voilà, quand on reprend l'histoire des siècles passés, il n'y a pas de moment idéal. Il y a des moments où des aspirations démocratiques s'expriment et marquent des points, mais il n'y a pas de moment achevé de la démocratie, par exemple dans un pays comme la France. Moi, je suis né 2 ans et demi avant l'élection de François Mitterrand, dans ce que je considère, selon les termes de Cornelius Castoriadis, une oligarchie libérale, c'est-à-dire un régime où le pouvoir de décision est largement concentré dans les mains d'une minorité d'acteurs, de quelques acteurs, politiciens, industriels ou fonctionnaires, mais où existent, et existaient d'autant plus, d'importantes garanties, toujours imparfaites, toujours inégalement reparties dans la population, selon la naissance, l'origine, etc., mais où existaient d'importantes garanties contre l'arbitraire d'État, contre les prérogatives de la police, contre la surveillance de la vie privée. Je renvoie aux citations de Castoriadis qui sont dans l'introduction de la liberté dans le coma, dans l'introduction de l'industrie du complotisme, des passages tirés généralement de livres comme La montée de l'insignifiance, où Castoriadis exprime clairement cette articulation entre le caractère oligarchique de notre régime social et en même temps le libéralisme, l'empreinte du libéralisme politique. Et c'est sur cette perte d'empreinte que je fais quelques rappels pour commencer. Donc, Cette situation d'une oligarchie libérale a évolué depuis 30, 40 ans. Nous vivons chaque jour dans des oligarchies de moins en moins libérales, et ce n'est pas seulement du fait de tout un ensemble de lois d'exception qui ont été votées ces dernières années contre la délinquance ou contre le terrorisme, qui jouent un rôle bien sûr, mais le développement technologique et l'adoption par une majorité de la population d'un mode de vie numérique ont en tant que tel joué un rôle crucial dans le déclin d'un certain nombre de libertés civiles. Donc je vais étayer ça par une série d'exemples. D'abord, je peux commencer par l'extraordinaire développement de la vidéosurveillance, bien sûr. Énorme diffusion par rapport à l'an 2000, où c'était balbutiant. Développement de la vidéosurveillance qui est d'abord dû au pouvoir public. Voilà, je renvoie par exemple aux articles de Science Critique, aux enquêtes de Science Critique sur la vidéosurveillance maintenant dans les villages, dans les toutes petites villes, où les élus des communautés de communes, etc., se sentent obligés de surenchérir, d'introduire une vidéosurveillance très poussée dans des endroits assez improbables, et avec parfois une demande de la population en ce sens. Et puis, ce développement de la vidéosurveillance, il est relié par les habitudes de filmer à tout bout de champ, compris un grand nombre de détenteurs de smartphones. Donc il y a les deux, on voit ce qui vient d'en haut et puis ce qui vient d'en bas, c'est-à-dire la banalisation d'images qui fige la vie sociale. Oui, je peux par exemple rappeler ce cas de figure à Millau, de manifestation à la fin du confinement, à la fin du grand confinement, de mars à mai 2020. Des gens ont manifesté à Millau contre le gouvernement en estimant que la responsabilité de la situation sanitaire était due à la dégradation de l'hôpital public en amont de la crise du Covid. Les gens ont voulu sortir dans la rue pour exprimer ça. Il y avait des appels à ce moment-là et un espoir qu'il y ait un mouvement en ce sens. Et un certain nombre de gens, une vingtaine de personnes, ont reçu chez eux des amendes sans avoir été verbalisées sur la base d'images de vidéosurveillance. Alors, ce qu'a en partie nié au début la police, en disant que c'était des RG qui avaient reconnu les gens, qui savaient de toute façon qui c'était. Mais bon, au final, finalement, ils ont quand même admis que c'était les images de vidéosurveillance qui avaient permis d'établir les identités. Donc c'est un cas pour l'instant relativement isolé, mais qui marque des étapes importantes. Deuxième point, la multiplication, bien sûr, est gigantesque des fichiers administratifs et policiers, qui sont aujourd'hui plusieurs centaines, hein, et ça c'est vraiment une prolifération qui s'est emballée à partir du milieu des années 90, avec évidemment l'importance par exemple symbolique du fichier des empreintes génétiques qu'avait fait passer un ministre de l'Intérieur socialiste, Daniel Vaillant, proche de Lionel Jospin, en jurant ses grands dieux que les empreintes génétiques c'était uniquement pour les grands criminels sexuels, pour des personnes qui étaient vraiment convaincues de viol, de choses gravissimes. Et aujourd'hui, ce fichier des empreintes génétiques est mobilisé pour, même quand on n'a pas fait de délit, quand on estime qu'on est témoin d'une situation, qu'on est témoin d'un délit, d'un problème qu'il y a eu dans l'espace public, on peut se voir réclamer ces empreintes génétiques. Et il y a des millions de gens aujourd'hui dont les empreintes génétiques figurent dans ce fichier, qui évidemment donne des possibilités très importantes de retrouver des gens sur des actions par rapport à des traces laissées. Par exemple, plusieurs arrestations d'actions commises le long de l'autoroute 69 dans le Tarn. Plusieurs arrestations, plusieurs procès sont liés à des traces génétiques retrouvées sur les lieux d'une action forte. Autre point, les traces laissées par les individus lors de leur navigation sur Internet et sur les réseaux sociaux. On est dans un monde aujourd'hui où beaucoup d'enquêtes de police commencent par regarder ce qui est dit sur une personne sur les réseaux sociaux. Quand on entend parler aujourd'hui, parfois y compris de crimes graves en fait, on sait que la police commence par regarder sur les réseaux sociaux et trouve généralement des choses tout à fait transparentes, des choses vraies sur les réseaux sociaux. Sur les personnes incriminées. De même, il y a une anecdote dans un État américain où l'avortement n'est plus autorisé, eh bien, il y a une femme qui a été condamnée sur la base de ce qu'elle s'était laissée aller à dire de manière transparente sur Facebook. Encore un élément, la traçabilité systématique des déplacements par les antennes de téléphonie mobile. Là aussi, dans le cadre des soulèvements de la Terre, il y a un certain nombre d'arrestations qui ont été faites sur la base du traçage des mobiles. Je pense aux arrestations effectuées suite à l'action contre Lafarge en Provence. Dans le même ordre d'idée, les billets de train aujourd'hui sont nominatifs. Alors, on peut donner des noms et des adresses fantaisistes, c'est encore possible dans l'absolu, c'est un peu risqué, mais on est dans une situation où, avec la SNCF, aujourd'hui, les billets sont nominatifs. Et puis, en Occitanie, région dirigée par une femme qui a l'étiquette de socialiste, Carole Delga, il y a une application qui est en train d'être mise en place, alors d'abord pour les jeunes, pour les lycéens, pour les étudiants, pour leur faire faire des économies sur les billets de train. C'est une application de smartphone, Fertik, donc qui s'appelle Fertik, qui est basée sur la géolocalisation, c'est-à-dire sur le fait qu'on prend un abonnement et que, en fait, quand on monte dans le train, on est géolocalisé immédiatement. Quand on descend du train, on est re-géolocalisé et le compte est automatiquement débité. En faisant ça, on a évidemment des réductions des prix sans commune mesure avec les gens qui auraient l'idée saugrenue de continuer de faire la queue au guichet et de s'acheter des billets en carton. Nous sommes également arrivés dans un monde où il est possible d'utiliser les assistants vocaux et puis les simples smartphones comme des micros à distance, donc dans quelque chose de tout à fait qui fait évidemment penser de manière absolument directe et indéniable au roman de George Orwell 1984. Et puis, tout à l'heure, il a été question du portefeuille d'identité numérique, qui est le passage des papiers d'identité sur smartphone, sur une application de smartphone, et l'intégration de toutes les cartes de citoyens modernes qu'on a dans nos portefeuilles, parfois. Carte vitale, permis de conduire, carte grise, etc., etc., de tout intégrer dans une même application de smartphone. On peut se souvenir, bien sûr, de la réaction de la société française face au projet Safari, en 1974, et donc l'idée d'un identifiant unique avait profondément choqué des pans importants de l'opinion et jusqu'au journal Le Monde, qui jouait pourtant déjà le même rôle de pivot de centre-gauche de l'opinion respectable. Et donc, ce projet avait été à ce moment-là remisé. Le portefeuille d'identité numérique réintroduit l'idée de l'identifiant unique. Et vous pouvez mesurer... l'absence de réaction qu'il y a par rapport à ça aujourd'hui. Je terminerai avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que permet aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui peut se coupler un peu à tout ce que j'ai dit là. Hein, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire des recoupements de fichiers, on peut l'utiliser pour doper la vidéosurveillance, on peut l'utiliser, pour espionner par des assistants vocaux. Pour donner une idée du caractère autoritaire, effectivement, de ce que permet l'intelligence artificielle. Je lis un passage du livre de Kate Crawford, Le contrat classe de l'intelligence artificielle, où elle relate ce qui est arrivé dans le Michigan, assez tôt d'ailleurs dans les années 2010, sous l'impulsion d'un gouverneur républicain, dont le discours n'est pas très loin aujourd'hui de celui d'un Laurent Wauquiez ou du Rassemblement National, qui avait demandé la mise en place d'un algorithme visant à exclure les criminels en fuite, c'est-à-dire des personnes qui seraient sous le coup d'un mandat d'arrêt non exécuté, du système de l'aide alimentaire. Et cet algorithme a désigné à tort plus de 19 000 habitants du Michigan, automatiquement radiés de l'aide alimentaire. Le second programme, baptisé Michigan Integrated Data Automated System, c'est-à-dire MIDAS, a été conçu pour juger « robotiquement » entre guillemets et punir ceux qui, d'après lui, fraudaient l'assurance chômage de l'État. MIDAS traitait presque toutes les divergences ou incohérences dans les données d'une personne comme une preuve de comportement illégal. Le système identifia à tort plus de 40 000 habitants du Michigan. Les conséquences furent graves, saisie de remboursement d'impôts, saisie arrêt des salaires, pénalités administratives dont le montant était 4 fois supérieur aux sommes concernées par les fraudes prétendues. En fin de compte, les deux systèmes furent de gigantesques échecs financiers qui coûtèrent au Michigan bien plus qu'ils ne lui rapportèrent. Les victimes ont ensuite pu poursuivre l'État, mais seulement après que des milliers de personnes ont été touchées avec de nombreux cas de faillite. Et donc voilà, imagine des situations de détresse personnelle et familiale extrêmes chez des familles plutôt pauvres pour déjà avoir le chômage aux États-Unis. deux petites remarques. Une remarque hellulienne, c'est-à-dire souligner comment on voit que les garde-fous légaux, les éléments qui sont inscrits dans le droit, sont en fait progressivement pliés et en fait écrasés par le développement des nouvelles technologies. Il y a un effet de fait accompli et de déplacement des bornes. Par exemple, c'est un aspect intéressant du bouquin de Kate Crawford qui montre comment en fait, les entreprises privées ont le droit aux États-Unis de faire en termes de renseignement des choses que les agences publiques, la police, les agences de lutte contre l'immigration clandestine, leur pouvoir de récolter de l'information sur la population est borné. Mais en fait, il suffit qu'elles demandent une prestation à des entreprises privées et toutes ces bornes sautent. Par exemple, il n'est pas légal de filmer, de faire des caméras qui captent tous les numéros de plaques d'immatriculation, toutes les plaques d'immatriculation, un système de reconnaissance automatique des plaques de voiture. Mais les entreprises privées ont le droit de le faire. Le système juridique est plié par la technologie. Et puis, autre aspect important, il faut voir que cet important glissement qui s'est produit depuis les décennies 70-80, il s'est produit sans que des partis se réclamant des traditions autoritaires, antilibérales ou fascistes n'exercent le pouvoir en Occident. De nombreux aspects de ce glissement vers l'illibéralisme sont simplement induits par les innovations technologiques elles-mêmes et en tout cas par leur usage banal dans la population. Donc plus que jamais, le problème n'est pas principalement, il n'est pas seulement que tel ou tel dispositif pourrait devenir dangereux si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Ces dispositifs changent déjà le type de société où l'on vit et le type d'être humain et d'électeur qui y vit. Voilà. Ça me fait une transition avec le deuxième point, qui était le fait de réfléchir un petit peu à la contribution du numérique, à la banalisation aujourd'hui d'aspirations autoritaires vis-à-vis de minorités sociales. Voilà, une nouvelle fois, je peux faire référence à la notion de personnalité autoritaire telle qu'elle a été développée dans le livre d'Adorno et ses compagnons de sondage, ses compagnons d'enquête dans les années 1940 aux États-Unis. Un livre tout à fait imparfait, mais qui reste très, très intéressant par les questions qu'il pose, qui a été traduit en français par Alia il y a une dizaine d'années. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est l'importance d'Internet et des réseaux sociaux dans le succès des mouvements autoritaires, fascisants, de droite nationaliste ou religieuse. Il est bien évident que ce n'est pas le seul facteur. Ces phénomènes sont liés à une myriade de facteurs sociaux, historiques. Mais il est aujourd'hui, à mon avis, frappant que le renouveau, assez inattendu dans son ampleur, d'un certain nombre d'idées et d'aspirations, a à voir avec l'addiction à Internet, l'addiction d'une grande partie de la population à Internet. Hein, dans l'industrie du complotisme, j'ai finalement pas pris le livre, j'ai fait une erreur, je vais pas aller le chercher. Je souligne qu'il faut se souvenir de l'importance de la propagande au début des années 2000 sur le fait qu'Internet devait être un vecteur formidable pour les mouvements d'émancipation, pour l'horizontalité des luttes, pour, au pire, des mouvements de démocratisation des sociétés despotiques, des sociétés dictatoriales, et au mieux, quelque chose qui promouvrait l'anticapitalisme, des formes de lutte anticapitalistes, etc. C'est pas du tout ça qui s'est produit. Je vais citer ici un certain nombre de livres qui ne sont pas forcément sur les tables des camarades de Quilombo, mais moi, des lectures que j'ai faites et où je trouve que, alors que le propos de ces auteurs n'est absolument pas technocritique, leur réflexion attire l'attention sur l'importance d'Internet dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Donc, je pense par exemple aux travaux de Gilles Kepel sur l'islamisme, sur la formation d'une extrême droite religieuse au Moyen-Orient et en Europe. Le livre de Marc Weitzmann, journaliste de France Culture, « Un temps pour haïr », où il y a des considérations très frappantes sur la manière dont Internet, la circulation virale, en fait, préfère des messages simples, des messages simplistes, et éventuellement des messages de haine, que c'est beaucoup plus facile à faire circuler que des pensées élaborées. Donc il y a des choses frappantes là-dessus dans ce livre « Un temps pour haïr ». Il y a également le travail du groupe, des gens tout à fait différents, Wooming 1 sur QAnon, le groupe Wooming, le groupe italien Wooming sur QAnon, qui montre l'importance des réseaux sociaux dans la formation de l'idée d'un complot pédosataniste des démocrates contre la population, contre les enfants américains. Je citerai également Timothy Snyder, l'historien américain, dans son livre La route vers la servitude, sur le conflit russo-ukrainien et sur le régime russe, en fait, qui est une critique du régime russe, d'un point de vue que je ne partage pas, d'un point de vue politique qui n'est pas entièrement le mien, mais où Snyder montre, revient sur le rôle des réseaux sociaux, le rôle d'Internet dans le succès de Trump en 2016, et également dans la création de franges d'opinion pro-russes en Europe, dans différents coins de l'échiquier politique. C'est très intéressant, en fait, c'est une revue d'actualité, il nous rappelle des choses qu'on a parfois déjà lues dans les journaux à tel ou tel moment, mais dont on ne se souvient plus parce qu'il s'est passé tellement de choses. Et voilà, je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant. Et puis, je voulais lire aussi un passage de livre de Giuliano da Empoli, terminé par un auteur macronien de Sciences Po, Les ingénieurs du chaos, une enquête très intéressante, qu'il a aussi essayé de... Non, qu'il va un peu plus loin, qu'il essaye vraiment de rentrer dans la boîte noire des réseaux sociaux et de comprendre le type de dispositions psychologiques qui sont favorisées par les réseaux sociaux. Et comment ça explique que des discours de haine, par exemple de haine raciale, se diffusent, connaissent un succès important sur les réseaux sociaux. Et puis j'aurais voulu développer un peu le fait que le fonctionnement, l'addiction à Internet ne façonne pas seulement des personnalités autoritaires de droite ou d'extrême droite, mais participe aussi de la résurgence de personnalités autoritaires d'extrême gauche. C'était un reproche que Christopher Lasch, dans Le seul et vrai paradis, faisait à l'étude sur la personnalité autoritaire d'Adorno et consorts. Il disait, c'est qu'une étude sur l'autoritarisme antilibéral. Mais il faudrait aussi regarder du côté de l'autoritarisme de gauche. Je me serais appuyé pour ça sur Renaud Garcia, sur le travail de Renaud Garcia dans Le désert de la critique, notamment dans sa préface, qui est un texte politique très important de notre époque, où il met en évidence la dynamique de ce qu'il appelle la dynamique de provocation et raidissement entre le gauchisme et l'extrême droite, dans un sens, dans l'autre. Donc évidemment, là aussi, c'est pas possible de dire qu'Internet en est le seul vecteur, le seul élément stimulant, mais c'est largement nourri par le fonctionnement grégaire des réseaux sociaux, par la simplification des messages. Si on prend un thème tel que l'immigration, par exemple, et qu'on veut l'aborder honnêtement, mais vous voyez bien, voilà, c'est un thème, en fait, qui appelle une pensée complexe, qui appelle une pensée nuancée, qui appelle d'en référer à l'histoire. Par exemple, bon, moi, je suis un lecteur, quelqu'un qui a été très important pour moi comme lecture, c'est François Bartan. La fin du développement, que la crise s'aggrave, etc. Ancien banquier du développement de la promotion Giscard Barre à l'École nationale d'administration, et qui a écrit sur le tiers-monde, sur pourquoi les économies du tiers-monde n'avaient pas leur chance dans la compétition industrielle mondiale. On ne peut pas comprendre la question de l'immigration sans ça, mais ça ne va pas être facile de le résumer en un tweet. Et donc voilà. Aujourd'hui, les tendances autoritaires à l'extrême gauche, c'est des choses anciennes. Regardez l'histoire des groupuscules des années 70, regardez les romans de Philip Roth sur les universités américaines, regardez Chien blanc de Romain Gary. Bien sûr, il y avait tout ça déjà avant, mais aujourd'hui, Internet agit comme une loupe des errances idéologiques et un formidable amplificateur. Je terminerai, je fais la jonction avec ce que disait Ségolène tout à l'heure sur un espace où il y a une disposition au débat, où la disposition au débat avec celles et ceux qui ne sont pas d'accord est très difficile, devient impossible. Et donc, ça a un rôle important dans la montée d'un autoritarisme, en fait, diffus, de personnalité autoritaire, de mouvement autoritaire, et en fin de compte, le risque de régime de plus en plus autoritaire.
Voilà pour ce petit panorama des interventions qui ont eu lieu aux rencontres Technologos. On peut les trouver sur technologos.fr, toutes les références. Les nombreux ouvrages cités, comme je vous l'ai dit, vous les retrouverez sur le site souriezinfo.info. Et au fait, pour la discussion avec l'équipe du Chiffon, alors finalement, c'est fixé pour le vendredi 18 octobre, donc le mois prochain. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
Savoir depuis combien de temps je suis là, dire pourquoi, je m'en souviens pas, mais sûr que le juge était pourri. J'ai que des gris comme univers, des néons tout crus qui m'éclairent. Tu me dis que dehors, c'est le pays de la liberté. Moi je connais plus que des barbelés, des projets qu'on n'éteint jamais, sur un show toujours le même et triste à pleurer. Le soleil de Californie, c'est pas pour tout le monde qui brille. Juste à côté de Saint-Quentin, y a San Francisco, Dieu que c'est loin, les gens, la ville, les quais, les rues. Ici on a des chaînes aux pieds, on marche au pas, les yeux baissés, c'est comme si on n'existait plus. Ici plus de rêves, plus de conque ou de craque, c'est à coup de crosse, à coup de matraque, qu'on nous apprend ce que c'est que d'être civilisé. Et pour celui qui refuse de ramper, y a le mitard illimité, y a les matons qui prennent leurs pieds à te briser. Le soleil de Californie, c'est pas pour tout le monde qui brille. Dans la prison de Saint-Quentin, on viendra me chercher un matin, on me dira que mon heure a sonné. Des fois je repense à mon ghetto, là-bas déjà, même sans barreaux, t'es sans espoir, t'es prisonnier. Paraît qu'ici, on est des loups, fallait bien qu'on nous mette dans le trou pour protéger la société, l'ordre public. Paraît que c'est pour le bien des gens qu'au bout d'un long couloir tout blanc, on me donnera le choix, la seringue ou la chaise électrique. Le soleil de Californie, c'est pas pour tout le monde qui brille. Le soleil de Californie, c'est pas pour tout le monde qui brille.
Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien, est-ce un lointain voisin? Un voyageur perdu, un revenant de guerre, un montreur de dentelle, est-ce un abbé porteur de ces fausses nouvelles qui aident à vieillir? Est-ce mon frère qui vient me dire qu'il est temps d'un peu moins noyer, ou n'est-ce que le vent qui gonfle un peu le sable et forme des mirages pour nous passer le temps? Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui vient, que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien, ce n'est pas un voisin. elle est trop fière pour être de ce coin, pour revenir de guerre. Ce n'est pas un abbé, son cheval est trop pauvre pour être paroissien. Ce n'est pas un marchand, son cheval est trop clair, son habit est trop blanc. La mort du père, ni ne sait nos prénoms. Regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien. Non, ce n'est pas mon frère. Son cheval aurait pu. Non, ce n'est pas mon frère. Il ne l'oserait plus. Il n'est plus rien ici qui puisse le servir. Non, ce n'est pas mon frère. Mon frère a pu mourir. Plus de tourments s'il s'agissait de lui. Allons, c'est bien le vent. Sécher tes larmes. Il y a un homme qui part que nous ne saurons pas. Tu peux ranger les armes.
Lorsque je serai vieux, au terme du voyage, mes yeux regarderont encore le paysage. Et je serai bien plus qu'avant émerveillé, car j'aurai de nouveau mes grands yeux d'écolier. Ah, que vienne le temps de la pause vieillesse, que je retrouve enfin un peu de ma jeunesse. Ah, que vienne le temps où je vais vers Véner, de tilleul en tison, près de la cheminée. Lorsque je serai vieux, je pardonnerai tout, l'apathie des moutons et la hargne des loups. Et je me moquerai de ces chagrins d'amour qui me venaient jadis tous les 7 ou 8 jours. Ah, que vienne le temps de la pause vieillesse, que des drames d'antan je me désintéresse. Ah, que vienne le temps où je vais vers Véner, de tilleul en tison,
près de la cheminée. Lorsque je serai vieux, je fixerai les pierres, je humerai le vent et la pluie et la terre, et je m'arrêterai pour saluer un arbre, le vernis d'une feuille ou les veines du marbre. Oh, que vienne le temps de la pose vieillesse, que je contemple enfin ce que les autres laissent. Ah, que vienne le temps où je vais verveiner de tilleul en tison près de la cheminée. Lorsque je serai vieux,
mamie,
tu seras vieille, et nous n'aurons tous deux plus de nez ni d'oreilles pour entendre leur bruit, ni de dents pour nous mordre. Il sera mort enfin le temps de nos désordres. Ah oui, vienne le temps de la pose tendresse, mamie, ce joli temps de la prime vieillesse. Ah, que vienne le temps où je vais verveiner, où ton cœur contre moi viendra dodeliner. Ah, que vienne le temps où je vais verveiner de tilleul en tison près de la cheminée.
En réalité, 24 pays qui voteront oui, et puis le mouton noir qui aura tout bloqué.
C'était une fois dans le pays, parmi les champs et les prairies, un beau troupeau de moutons blancs dans les prés paissait insouciant. Mais
au milieu du troupeau qui bêle, un mouton noir se rebelle.
Sur le dos, j'ai plus que la peau sur les os. On veut faire de moi un méchoui. Faudrait encore que je dise oui.
Mais j'ai pas peur des agneaux.
Le mouton noir a bien compris que les loups faisaient les chantiers.
Avec l'espoir quand vient la nuit de brader par vous la bergerie.
Pour une concurrence non faussée.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir a bien compris, l'homme est un loup pour le mouton.
Et quand soudain le mouton grogne,
les loups s'affolent pour un.
Non! Le seigneur n'est pas mon berger, je suis le mouton de personne.
Le mouton noir a décidé d'ignorer le clairon qui sonne.
Au milieu du troupeau qui bêle, le mouton noir se rebelle.
Le mouton noir n'est pas gentil, il en a marre de dire amen.
Ah ah, alléluia.
Au chien de garde, sur toutes les chaînes.
Waouh, le mouton noir ne dit pas oui.
Waouh,
le mouton noir enfin voit rouge, se dit que tout seul il ne bouge.
Waouh,
qu'il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un beau jour. Il faut au moins tout un troupeau pour faire du loup un bon gigot.
Moralité:
à prendre les gens pour des moutons, on se prend des retours de bâton. À prendre les gens
moutons
pour
de toutes
des
les prairies,
on se prend des retours de bâton. À prendre les gens
pour
des moutons,
se relève des moutons eux-mêmes.
Des retours de bâton. À prendre les gens pour des moutons. À prendre les gens pour des moutons, on se prend des retours de bâton.
Et Toto Yati, ton papa, les para papa. Et Toto Yati, ta maman, les para maman. Et Toto Yati, ton pépé, les para. la pépé. Et Toto y a tita mémé, yépa yépa. Et Toto y a titon ton ton, yépa yépa. Et Toto y a tita tata, yépa yépa. S'il n'y a pas ni ton papa ni ta tata, etc. Ah quel bonheur, je vais voir ta sœur. Oui, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus ceci cela et la plus et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, là, tiens la voilà. Salut, je ne t'ai pas apporté de fleurs, ça ne m'étonne pas. Mais me voilà avec mon cœur, ça ne m'étonne pas. Et aussi avec mon scooter, ça ne m'étonne pas. Tout de ne batte que pour toi. Tic-tap, tic-tap, laisse-moi te prendre dans mes bras. Pas les pattes, pas les pattes. Laisse-moi te faire un bisou là. Pas les pattes, pas les pattes. Oh la vilaine, si c'est comme ça, je vais voir ta bonne, la belle Irma. Et je l'amène au cinéma. Na, car c'est la plus belle, la plus sensationnelle, la plus si cela et la plus et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, tiens la voilà. Salut Irma, tu viens au cinéma? Non.
Je t'en perds.